conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Auditeurs, bonjour et merci de votre présence. Toujours dans ces portraits de rentrée des différents architectes urbanistes et des différentes manières de faire ce beau métier, je reçois aujourd'hui Pablo Katz, architecte et urbaniste. Bonjour. Hein.
Bonjour, bonjour Myriam.
Alors, je vais rapidement passer un petit peu sur vos différents mandats, sur votre structure, une structure d'à peu près une douzaine de personnes, où on développe des projets d'architecture, d'urbanisme, de design, de paysage, c'est-à-dire une espèce de globalité de ce métier qui aujourd'hui, effectivement, est extrêmement important. Outre cette partie-là de votre travail, vous êtes ancien président de la Société française d'architecture. Vous êtes évidemment aujourd'hui aussi architecte conseil de l'État, donc vous nous expliquerez peut-être un petit peu cette facette-là de votre métier, est-ce qu'elle est toujours aussi importante? Mais je vais quand même un petit peu rentrer tout de suite dans le feu de l'action. Est-ce qu'aujourd'hui, comment on voit l'évolution de notre métier? On va dire, mettons-nous en prospective 20-30 ans, c'est quoi l'architecture?
Oui, je pense qu'on est à un moment charnière dans la configuration de nos pratiques. On est confronté à des problématiques nouvelles dont la société globalement prend conscience de l'importance. Les questions environnementales vont modifier très fortement notre façon de faire la ville et l'architecture. Il est vrai que depuis plusieurs décennies, les choix qu'on était fait en matière d'aménagement du territoire ont conduit à des tensions, à des fractures, à un territoire
mité, on va dire.
Fragmenté d'abord et puis fortement mité. Donc effectivement, la question de l'étalement urbain, c'est une prise de conscience récente de la problématique de cette façon de consommer, d'artificialiser les sols. Il y a maintenant les GIEC, biodiversité, qui s'est exprimé avec beaucoup de force sur la perte de biodiversité. La France a un taux de consommation des sols, d'artificialisation des sols, largement supérieur à la moyenne européenne. Et on voit que cette façon de faire la ville et d'aménager les territoires nous mène dans une impasse. Et donc je pense que dans les décennies qui viennent...
Donc on va changer la manière de faire la ville.
On va être obligé d'interroger, de réinterroger notre façon de faire la ville.
Alors, on voit effectivement dans tous les grands projets type IMGP, consultation, etc., des buildings de grandes hauteurs avec plein d'espaces verts qui dégoulinent des façades, une espèce de protubérance extraordinaire de développement de biodiversité et de plantation en sites urbains denses. Alors, c'est peut-être formidable à Singapour, je ne suis pas sûre qu'en France le modèle fonctionne. Ça veut dire que dans 20-30 ans, on habitera tous dans des buildings de 30-50 étages et puis on aura une agriculture raisonnée en périphérie des villes.
Non, moi je pense que ce n'est pas ça l'avenir de nos pratiques et de nos villes. Il me semble que c'est une réponse très premier degré plutôt anecdotique, la végétalisation
des façades,
c'est d'une certaine façon une manière de greenwashing. Je pense que les enjeux sont tels que les solutions doivent être beaucoup plus fortes, plus ambitieuses. et que si aujourd'hui la ville se fabrique essentiellement soit par la construction des immeubles collectifs dans des zones tendues, soit par des lotissements pavillonnaires en zone détendue sur les territoires plutôt déprimés, et qu'aujourd'hui, sur 3 logements réalisés, 2 les zones sous forme pavillonnaire, il va falloir qu'on sorte de cette dichotomie extrême densité face à une très faible densité qui est celle du lotissement, avec 4, 8, 6, 12 maximum logements hectares, et qu'on commence à rechercher des modes de vivre qui permettent de proposer des formes urbaines qui puissent allier l'attente sociale. L'attente sociale, c'est quand même malgré tout
le
la maison,
jardin.
Les jardins, avec la densité. Et que donc l'avenir, il est plutôt à l'invention des typologies intermédiaires qui vont permettre de densifier pas les centres historiques et les centres-villes qui sont aujourd'hui extrêmement denses. La ville de Paris offre l'un des tissus les plus denses au monde, mais tous ces banlieues et ces secteurs qui sont déjà urbanisés, mais avec des très faibles densités et qui permettraient des densités bien plus fortes.
Alors ça veut dire que dans le cadre de l'aménagement du Grand Paris, où aujourd'hui nous sommes confrontés à des banlieues qui pour certaines ont de grandes zones pavillonnaires, on pourrait proposer en lieu et place de ces pavillons, au lieu de d'immeubles, je dirais collectifs, grande hauteur, végétalisés, des petits immeubles avec une certaine modularité, avec une rapidité de mise en œuvre qui pourrait correspondre un peu aux besoins de l'entre-deux ?
Exactement, on a peu de références aujourd'hui dans ce type de densification des tissus périphériques, mais je pense que l'essentiel des réserves des fonciers à bâtir en France, parce que les besoins existent et il va falloir construire, se trouve dans des zones déjà urbanisées avec des faibles densités. Et c'est quand même paradoxal que, alors même que depuis des années et des années, on parle de mixité, mixité fonctionnelle, on a dénoncé très fortement la façon de la période moderne de fabriquer du zoning et les cités d'habitation, les quartiers monofonctionnels d'habitation, les quartiers monofonctionnels résidentiels ont été dénoncés notamment par l'absence de mixité programmatique et sociale, mais on continue à faire d'une part des lotissements sans services, sans équipement, qui nécessitent les recours à la voiture pour pouvoir fonctionner, avec des très importantes surfaces de voirie pour pouvoir les desservir,
et donc les corollaires perméabilisation des sols,
qui sont totalement monofonctionnels encore, et on continue à fabriquer la ville de cette façon-là, avec des quartiers d'habitation sans aucune mixité programmatique. Et les corollaires de cela, ce sont les modes de consommation qui vont avec, l'autoroute qui relie ces quartiers pavillonnaires à des centres commerciaux, puis des zones d'activité.
Et oui, donc, mais justement, comment on fait, excusez-moi, mais comment fait-on pour casser ce modèle d'une manière, on va dire, radicale, alors que il y a des personnes qui se sont endettées pour 30 ans de leur vie, pour avoir leur pavillon, leur petit bout de terrain, et que ça paraît absolument compliqué. Alors, à quel moment on commence à mettre en œuvre cette manière, de nouvelle manière de faire le périurbain sans, je dirais, secouer d'une manière trop forte les habitudes et surtout les personnes qui ont mis en place des taux pour 30 ans, enfin des prêts pour 30 ans.
On voit que ces systèmes d'aménagement du territoire est à bout de souffle et la crise des banlieues, les mouvements des gilets jaunes sont l'expression d'un profond malaise dans notre société. Et on voit bien qu'on a une société qui est totalement clivée, fragmentée, entre des territoires dynamiques et des territoires en récession. Et il semblerait qu'enfin, l'État prenne la mesure de ces problématiques, ce qui fait que, sans aucun doute, dans les décennies qui viennent, il va voir, en tout cas, il semblerait qu'il y a la volonté d'engager un processus plus vertueux. Notamment les questions environnementales plaident très fortement pour la recherche de nouvelles solutions, mais aussi cette fragmentation sociale qui est en train de polluer les climats sociaux dans notre société.
Alors, moi, je suis un peu dubitatif quand vous parlez de l'État. Il semble que l'État a pris conscience. Je pense que sur ces territoires, ceux qui comprennent mieux les territoires, c'est les élus, les maires. Voilà. Et donc, est-ce qu'on n'est pas justement, puisque aujourd'hui les maires ont leur rôle qui est, je dirais, réinterrogé à la lueur des problématiques de finances publiques et de la répartition de l'argent entre communes, territoires, etc. Est-ce qu'on n'est pas justement à un moment donné clé où de toute façon l'engagement de l'État, sur ces problématiques-là, n'est pas attendu, on va dire? Et justement, au contraire, il y a une attention et une attente beaucoup plus importante sur les territoires et les communes.
Bien sûr, l'État, il est affaibli. Les maires, ils sont un pouvoir considérable. Et c'est la pause, effectivement, notamment en relation avec la question de l'aménagement du territoire, la question de la gouvernance de ces processus. Et il est vrai que l'état de la ville, c'est un temps long qui nécessite d'inscrire des politiques sur la durée, et que l'état des maires, c'est l'état des mandats, et c'est un temps plus court, et qu'il va falloir concilier ces temps longs et ces temps courts. Mais d'une part, il y a des évolutions dans les paysages politiques avec l'émergence et la montée en puissance des intercommunalités. Et donc ça va reposer autrement la chaîne des décisions. Et puis, je pense qu'il va falloir accompagner les maires pour qu'ils prennent conscience qu'il n'est pas possible, il n'est plus possible de continuer à aménager les territoires tels qu'on les fait. Là, les architectes, nous avons un rôle très important à jouer.
Alors justement, on n'a pas encore parlé de votre rôle en tant qu'architecte conseil de l'État sur l'enseignement et un petit peu évidemment sur votre actualité. Mais je vous propose de nous revoir lors d'une très prochaine interview.
Avec un grand plaisir, Myriam.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt sur nos antennes.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.